Ne croyez pas que je ne vous pas répondre. Je cherche les bons mots. Je cherche les bons mots et après, je les mets l'un après l'autre. Parfois, je les mélange. Parfois, je les récite en désordre. Et je ne les prononce pas bien. J'essaie de bien programmer ces deux codes dans lesquels j'habite. Mais parfois, je n'y arrive pas.
Sans le savoir, tu commences à parler une autre langue, qui n'a pas de règles, qui te sert seulement à t'exprimer, comme si cela ne suffisait pas. Du Nord au Sud, les podcasts de Radio Campus Pau pour parler de la langue et de culture hispanique et latino-américaine, et parfois pour parler le français mélangé à l'espagnol.
Lydie Silvaje est la fille d'une mère catalane et un père andalous qui se sont exiliés dans le sud de la France à cause de la guerre civile en Espagne. La langue maternelle de Lydie est l'espagnol, mais quand elle écrit, les mots qui lui viennent sont en français.
Dans l'année 2014, Lydie a sorti un roman qui raconte les conflits dans son pays natal et les séquelles qu'il a laissées à ceux qui ont dû migrer pour sauver leur vie. Ce roman a pour titre « Pas pleurer, no llorar » et avec cette œuvre, elle a obtenu les prix Goncourt.
Le prix Goncourt 2014 a été attribué au 5e tour de scrutin à Lydie Salver pour « Pas pleurer » aux éditions du Seuil par 6 voix contre 4 à Kamel Daoud.
Un livre à l'écriture très originale, même si je regrette qu'il y a parfois trop d'espagnol, a souligné Bernard Pivot, président de l'Académie Goncourt, en 2014, juste après avoir remis le prix à Lydie. Pour sa part, le journal espagnol El País présente le roman comme un Goncourt qui n'écrit ni en français ni en espagnol, mais en fragnol. As-tu compris qui étaient les nationaux?
Il me semble que je commence à les savoir. Il me semble que je commence à savoir ce que les mots nationaux portent en lui des malheurs. Il me semble que je commence à savoir que, chaque fois qu'il fut brandi par le passé et que fut la cause défendue, il escorta inéluctablement un enchaînement de violences en France comme ailleurs.
Ce dialogue se déroule alors que la fille aide à sa mère à s'asseoir dans un gros fauteuil en ratine verte installé près de la fenêtre. Rempli d'images qui seront plus tard transposées au théâtre, le roman de Lydie a aidé à la valorisation d'une langue qui a servi à beaucoup d'entre nous, migrants hispaniques dans les pays francophones et, por supuesto, aussi aux francophones dans les pays hispanophones. C'est une langue plus vivante que jamais.
Le roman de Lydie, c'est l'introduction pour présenter le premier épisode, qui est aussi le début du podcast dans lequel nous voulons rendre visible la présence de l'espagnol dans les Vernes. Nous souhaitons aussi montrer la variété de cette langue qui existe dans le monde, du nord au sud, en mettant l'accent sur l'Amérique latine, d'où nous sommes toutes les deux originaires.
Nous voulons éveiller votre intérêt pour la culture et le monde hispanique en vous faisant voyager à travers les interviews, les informations et la musique que nous allons vous proposer à chaque épisode.
Mais en plus de tout cela, nous allons demander des conseils à des experts de langue et à des étrangers qui parlent l'espagnol ou les français comme deuxième langue, pour qu'ensemble nous puissions améliorer notre niveau dans ces deux langues.
Pour ce premier chapitre, nous avons parlé avec l'enseignante du français langue étrangère de l'UPPA, Géraldine Lespard, et nous lui avons proposé la question « Pourquoi avons-nous la tendance à mélanger les langues ?» même lorsque nous avons déjà un bon niveau dans les deux langues.
Alors, chez une personne qui apprend une langue et qui ne la maîtrise pas, ça s'explique surtout par les interférences. Donc, cette personne va appliquer le système de sa langue maternelle, un schéma qu'elle connaît parfaitement, mais qui diffère de la langue qu'elle va apprendre, donc la langue cible. Et petit à petit, au fil de l'apprentissage, avec l'expérience, et en apprenant aussi de ses erreurs, ces interférences vont s'estomper. Mais ce transfert d'une langue à l'autre peut encore avoir lieu à un niveau avancé, donc quand on maîtrise les deux langues. Dans ce cas, ça peut venir du fonctionnement de notre cerveau. Parfois, on ne trouve pas tout de suite le mot recherché, mais il nous vient dans une autre langue très rapidement. Donc on va passer d'une langue à l'autre, c'est ce qu'on appelle aussi le code switching. Alors ça peut s'expliquer par la manière dont les langues sont organisées dans notre cerveau. Nous avons des réseaux de neurones qui se construisent au fur et à mesure de l'apprentissage. Et l'accès au lexique d'une langue se fait par un circuit dans notre cerveau et par un autre circuit pour l'autre langue. Alors parfois, il y a des erreurs d'aiguillage, un peu comme les trains, et l'influx nerveux qui permet d'accéder à un mot ne va pas passer par le bon circuit, et il va arriver à la mémoire sémantique de l'autre langue qu'on a apprise. C'est ce qui est observé chez les jeunes enfants bilingues aussi. Ils ont tendance à mélanger les langues de leurs parents quand ils apprennent à les parler. Et puis progressivement, ils arrivent à différencier les deux systèmes de langue. Donc ils créent deux circuits différents, bien distincts. Mais parfois, ils finissent par se... De temps en temps, ils se croisent.
Parfois, les erreurs prennent des formes créatives et donnent naissance à de nouveaux mots. Des mots que de nombreux locuteurs de Farañol partagent, bien qu'ils vivent dans des différentes parties du monde. Pourquoi ces mots créés se ressemblent-ils d'un locuteur à l'autre ?
Alors, pour les mots créés, c'est la même histoire de transfert. On va appliquer le schéma de notre langue maternelle, qui est bien ancré dans notre cerveau, à celui de la langue cible. Donc c'est pour cela que les locuteurs hispanophones, par exemple, feront les mêmes erreurs en français. On voit les apprenants dans les classes de français langue étrangère qui font exactement les mêmes erreurs. Au niveau lexical, un hispanophone pourrait dire pour dire « arrête-toi », il pourrait dire « pars-toi ». Donc il aura créé le mot « paré », qui viendra du mot « parar » en espagnol. Et ce sont les fameux « faux amis » qu'on retrouve dans les langues très proches et voisines.
Ces questions, nous l'avons aussi posées à Sofía, étudiante mexicaine en production audiovisuelle, art et culture à l'UPPA. Pour elle, ces mots créés renouvellent constamment en langue vivante.
Donc, de mon point de vue, je pense que toutes les personnes qui sont bilingues, c'est-à-dire qui pratiquent tous les jours au moins deux langues pensées et écrites, donc ont toujours une connexion de syntaxe et de vocabulaire qui peut se mélanger de temps en temps. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne comprend pas ou on ne s'exprime pas bien dans les deux, c'est juste qu'on a tendance à mélanger la syntaxe, c'est-à-dire la logique, l'ordre des mots, donc ce qui arrive très souvent chez les élèves et chez les personnes bilingues, et n'en parlons même pas des personnes trilingues.
Finalement, nous leur avons demandé à toutes les deux comment éviter de mal parler dans les deux langues et les mélanger sans cesse. Bien que nous sachions qu'il n'existe pas une seule façon de bien parler, avec cette question, nous faisons plutôt référence à l'obtention d'un niveau le plus proche possible du standard de la langue à parler.
Et donc, en ce qui concerne les mots créés, donc qui sont inventés par les gens qui parlent une langue vivante, je pense qu'on est dans un côté très intéressant, c'est-à-dire le renouveau absolu de tout ce qu'on parle. Parce que c'est impossible qu'une langue reste la même tous les ans. D'ailleurs, tous les ans, on a énormément de mots qui s'ajoutent au dictionnaire. Ça, c'est passionnant. Et ensuite, pour les mots qui sont créés, ils se ressemblent, je pense, parce qu'il y a l'origine de base du français, qui est des peuples francs. Donc de là, on a le français, l'espagnol, l'italien, etc. Donc de là, qu'on a énormément de ressemblances.
Alors, pour éviter de mal parler dans les deux langues, surtout pour des hispanophones et francophones bilingues, c'est surtout prendre conscience des interférences qu'il y a entre les langues, parce qu'elles sont proches. Donc l'espagnol et le français, ce sont deux langues linguistiquement proches, elles sont de la même famille linguistique. Donc il faut connaître leurs ressemblances et leurs différences, travailler sur la comparaison entre les deux systèmes pour bien assimiler la spécificité de chaque langue. Donc par exemple, savoir que « por lo tanto », ça signifie « donc » en français, et non pas « pourtant ». C'est une partie du travail qu'on fait en intercompréhension d'ailleurs. On va travailler sur les similitudes entre les langues pour montrer que c'est facile de lire de l'espagnol pour un francophone ou facile de lire du français pour un hispanophone. Mais on va aussi souligner les différences entre les langues justement pour montrer que ce sont quand même deux systèmes différents. Ensuite, il faut essayer de prendre conscience de nos erreurs, de voir pourquoi nous les faisons et ne jamais oublier que l'erreur fait l'apprentissage. Donc c'est grâce à elle que nous progressons. Donc il faut aussi les assumer.
Reconnaître ses erreurs et les assumer, c'est important. Même si on continue à parler espagnol après, comme l'a fait la maman de Lydie.
Ma mère, à la fin de sa vie, devient croyante. Croire, en espagnol, se dit creer, creer. Et le mot qui lui semble le plus proche de creer, ça n'est pas croyant, qui est un terme éloigné pour elle de son creer espagnol, c'est « Il faut que tu saches, ma chérie, que je suis devenue extrêmement crédule. » Sur le ton le plus universitaire qui soit, et je te prie d'en tenir compte. Tout ça pour vous dire la saveur, la malice de ce fragnol, et peut-être un autre exemple avant que je ne devienne absolument sérieuse. Ma mère, qui avait été anarchiste dans son adolescence, souhaitait que ses filles soient mariées. Mariées, c'est casar, ser casadas. Et avec un ton lyrique absolument dégoulinant, elle nous disait « Mes chéris, ce serait tellement beau, tellement merveilleux que vous soyez casés. » Et donc on voit bien comment le mot crédule ajoute au mot croyant sa part d'ingénuité, de naïveté, mais peut-être de sottise. Comment donc le fragnol ouvre le sens, mais ça je le développerai plus tard, et comment inversement le tu es casé, vous allez être casé, ajoute en péjoration au mariage.
Et après cet extrait de la conférence de Lydie intitulée « Du bon usage du fragnol » que vous pouvez retrouver en intégralité sur YouTube, nous arrivons à la fin de cette émission avec la musique qui nous a accompagnés tout au long de l'épisode « Du Norte au Sud » de Luis Attaque.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à vous. Linda de la Rosa et moi, Clara Paez, nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur Radio Campus Po.
Ciao. Méridien, l'élégance du voisin, son tarmac et le mien.